le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture. En ce dimanche matin, nous accueillons aujourd'hui Corinne Acli, pasteur de l'Église protestante unie de France. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Alors vous êtes venue accompagner aujourd'hui pour nous parler d'un psaume. Un psaume de la Bible, le psaume numéro 23. Et vous êtes venu accompagné de musiciens. Pascal Chemchak est avec nous.
Bonjour Michel.
Bonjour. Et aussi Jean-Baptiste, qui fait partie de l'orchestre que nous allons écouter dans quelques instants. Bonjour. Alors, je vais tout de suite vous donner la parole, Pascal Chemchak. Pourquoi avez-vous voulu travailler sur ce psaume 23 dont va nous parler Corinne dans quelques instants?
Tout d'abord, merci Michel de nous accueillir dans cette émission. Je travaille en tant que compositeur de musique classique avec un artiste qui habite Boston et qui s'appelle David Warne. David est chanteur lyrique, il a une très jolie voix de ténor et il est croyant. Et même plus parce que précisément il est protestant. Et il m'a demandé de lui composer des œuvres sacrées. J'ai ainsi composé une cantate pour piano et ténor qui s'appelle Love Cantata, dont le texte est 1 Corinthiens 13. Pour mémoire, je rappelle le texte à nos auditeurs, mais je pense qu'il est universellement connu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et cette cantate a été créée à Boston le 25 février dernier, avec un très beau succès. Et nous avons eu l'idée d'en faire un CD qui est en cours de réalisation. David m'a ensuite demandé de lui écrire une autre cantate pour compléter cet enregistrement. Et il m'a proposé le texte de la fin du premier livre de Samuel, ainsi que le début du second livre sur l'histoire de David en guerre contre les Amalékites. C'est une histoire un peu dure, mais absolument fondatrice en ce qui concerne l'accession de David à la royauté. Et donc j'ai écrit cette œuvre pour ténor et piano, et j'ai soudain eu l'idée de mettre en finale de cette cantate le psaume 23. Voilà, parce que ce texte, je trouve que ce texte résume bien le chemin de vie de David. David, le roi, mais avant tout le berger, d'abord conducteur de moutons, puis conducteur d'hommes.
D'accord, merci beaucoup. Alors, on en écoutera un extrait tout à l'heure.
Tout à fait, oui.
Mais tout de suite, c'est Corinne qui va nous expliquer pourquoi elle a voulu nous parler de ce psaume aujourd'hui, Corinne. Corinne
Acli. Oui, pour moi, ce psaume est comme un ami, un messager d'espoir, pour que nous ne perdions pas la volonté d'avancer, quels que soient les obstacles dans notre vie personnelle, la difficulté de notre chemin. Et c'est pour ça qu'en fait, nous le récitons depuis près de 3000 ans aux grandes étapes de notre vie. Naissance, baptême, accident, angoisse, décès, deuil. Vous savez, Michel, moi, j'ai suivi l'école du dimanche dans les années 60, du temps où le catéchisme reposait pour beaucoup sur le réciter par cœur les versets bibliques, mémoriser les cantiques. Et dès l'âge de 6 ans, nous étions entraînés à réciter le credo, symbole des apôtres, le Notre Père et ce psaume 23.
D'accord. Et vous aussi, Pascal, alors vous avez appris
tout
ce
psaume par
cœur.
Oui, tout à fait. Comme Corinne, j'ai appris par cœur le psaume 23. Ma mère me le récitait déjà lorsque j'étais enfant. Et parfois même le soir, pour nous endormir, elle nous récitait le psaume 23. Et ça doit être même le premier passage biblique que j'ai connu par cœur. Et aujourd'hui, sa récitation mentale accompagne toujours mon chemin de vie. Et ce n'est peut-être pas par hasard si j'ai décidé de le mettre en musique.
D'accord. Alors Corinne, ces mots restent gravés pour vous aussi.
Tout à fait, ça reste gravé dans la mémoire. Et des fois, ils surgissent spontanément, sans qu'on y fasse attention au détour d'un événement, un passage difficile. Alors je vous propose de l'entendre maintenant, de l'écouter, en simple lecture d'abord, et puis nous écouterons une version qu'en a fait le chanteur Alain Caburet, à partir d'un poème de Philippe Varnier.
Alors c'est Pascal Chemchak qui va nous faire la lecture de ce psaume 23 maintenant.
Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Tu es Seigneur mon berger, tu conduis aux fraîches eaux. Tu gardes ton bien-aimé dans la douceur du repos. Tu es avec moi Seigneur dans les frayeurs de la mort. Ni la haine ni la peur ne me peuvent faire tort. Tu es Seigneur mon berger, tu conduis aux fraîches eaux. Tu gardes ton bien-aimé dans la douceur du repos. Tu as préparé la fête, l'adversaire est loin de moi. Tu me parfumes la tête, mon cœur déborde de joie. Tu es Seigneur mon berger, tu conduis aux fraîches eaux. Tu gardes ton bien-aimé dans la douceur du repos. Pour la durée de mes jours, je goûterai le bonheur, car tu m'aimeras toujours, toi qui es mon seul sauveur. Tu es Seigneur mon berger, tu conduis aux fraîches eaux. Tu gardes ton bien-aimé dans la douceur du repos, dans la douceur du repos.
Voilà, c'était Alain Caburé qui interprétait ce psaume 23. Vous êtes sur le service protestant, sur France Culture. Nous sommes avec le pasteur Corinne Acli qui voudrait nous parler de ce psaume 23. Corinne.
Si j'ai choisi ce matin de partager avec vous ce psaume, c'est à cause de sa densité et sa sérénité. 6 petits versets d'une intense densité. Cette prière, ce poème, vient du recueil du roi David, qui fut d'abord un enfant, le plus jeune de toute sa fratrie. Son père vivait à Bethléem et avait 8 fils, et David était le 8e. Un gamin blondiné, un va-nu-pied, joueur de fronde et de harpe, gardien du troupeau de moutons de sa tribu. Car Michel, vous savez, les grands hommes ont tous commencé petits. Les grands hommes, les grands-pères, les grands-parents ont tous commencé comme nous, et petit à petit, ils ont grandi en se forgeant un caractère, une personnalité. L'humilité et la douceur de David dans ce psaume peut nous surprendre parce que l'image simpliste que nous avons gardée de lui est celle d'un guerrier, d'un grand roi, qui doit se montrer fort en toutes circonstances. C'est un homme, un vrai. Mais lui, il ne se voit pas comme cela. Il a besoin de se raccrocher à plus grand que lui. Ici, il n'est qu'un apprenti pastoureau, suivant le maître du troupeau. Il apprend à reconnaître le chemin, à devenir lui aussi gardien du peuple. Il se ressent comme un tout petit agneau tremblant dans la sombre vallée du deuil et de l'exil, cherchant un abri, une eau claire, le calme des verts pâturages.
Alors là, on a une imagerie biblique et une imagerie populaire, inspirée un peu par La Fontaine qui se mélange un peu dans nos têtes,
oui.
Avec cet agneau qui est un peu le symbole de l'innocence et de la fragilité. Puis en plus, avec La Fontaine, ça se termine difficilement, puisque la raison du plus fort est toujours la meilleure. Alors comment on se tire de ça?
Mais en tout cas, on se laisse toujours attendrir par les histoires d'agneaux. On aime bien être comparé à des brebis ou à des agneaux, mais par contre, on ne supporte pas d'être traité de mouton.
Ouais.
Des moutons grégaires, des moutons qui se laissent tondre. Les agneaux, s'ils nous attendrissent, c'est qu'ils sont mignons. On les voit apparaître dans les crèches de Noël. Et puis, il y a le fromage de brebis dont on vante la force et la douceur. Mais il nous est insupportable d'être traité de mouton bêlant, incapable d'articuler une phrase cohérente. On se révolte qu'on puisse nous assimiler à du bétail vivant en troupeau, acceptant de faire masse. Rabelais raconte que les moutons de Panurge se sont précipités du haut de la falaise en suivant le premier de la cohorte et qu'il suffit donc d'éliminer le meneur pour que la foule qui le suivait bêtement disparaisse. Comme Rabelais, ce monsieur de La Fontaine considérait les moutons et autres espèces herbivores comme des animaux stupides. Et cette idée reste profondément ancrée dans l'opinion. Jésus aurait trouvé sûrement beaucoup de saveur dans ces histoires. Parce que lui, presque 1000 ans après le roi David, il s'est intéressé lui aussi au sort des brebis perdues dans le désert ou menacées par les voleurs. Le chapitre 10 de l'évangile de Jean est entièrement consacré au souci de Jésus à propos du sort des moutons. Jésus va s'identifier à un berger qui n'a qu'un seul but, celui de faire paître son troupeau dans des prés d'herbes tendres et leur offrir la vie éternelle, la vie en abondance, déjà sur cette terre et au-delà. Son seul souci, c'est de leur assurer le plus de confort possible. Il souligne qu'il n'est pas seulement le berger, mais qu'il est le bon berger, et qu'il n'est pas seulement le bon berger, mais aussi qu'il est la porte de la bergerie. Il les accompagne dans leur transhumance et il les accueille dans sa bergerie. La parabole du bon berger, comme le psaume, nous transporte ainsi dans un univers étrange, celui de la gratuité. Le berger s'active sans aucun souci de rentabilité et les brebis, en s'engraissant, n'ont aucune autre fonction que celle de faire la joie de leur berger. Ainsi, on peut voir dans les récits de Jésus l'influence directe du psaume 23. Et en fait, là réside tout l'art des psaumes. Il nous parle d'hier, de la vie et des combats des hommes de l'Antiquité. Mais ils ont le pouvoir de traverser les siècles et chaque génération a pu se les approprier. Jésus et ses contemporains chantaient les psaumes. Ils les connaissaient par cœur et ils peuvent encore nous rejoindre dans notre actualité et nourrir notre vie spirituelle.
Le service protestant avec Corinne Ackley, pasteur de l'Église protestante unie. On continue avec vous, Corinne, à découvrir votre méditation à propos du psaume 23.
En fait, ce psaume, il y a toute une histoire de transmission. Il était récité par le peuple d'Israël, en particulier lors des pèlerinages vers le temple de Jérusalem. Vous savez, sur la route, on souffrait de la chaleur, de la soif, des blessures, des infirmités, des attaques de brigands, passages difficiles où planait l'ombre de la mort. Et il faut se faire une raison, la vie n'était pas plus facile avant. Bien au contraire. Et David proclame que recevoir l'amour du Seigneur l'aide à supporter toutes ces épreuves et à en tirer le meilleur pour continuer d'avancer. Il se sait aimé tel qu'il est et tel qu'il n'est pas, avec ses qualités, ses atouts, mais aussi avec sa part d'ombre et ses défauts. Et c'est Dieu qu'il choisit comme son maître. Le Seigneur est mon berger, mon guide, mon compagnon de route. C'est en faisant l'apprentissage de la confiance dans ce protecteur qu'il va devenir un roi apte à guider lui-même tout un peuple vers la paix et le bonheur. Et puis au début de l'Église, ce psaume est devenu naturellement le psaume spécial de la liturgie du baptême. Les baptisés émergeant de la cuve baptismale partaient en procession vers le lieu de la confirmation et de l'Eucharistie en chantant ce psaume. Et pour les réformateurs, ce psaume parle bien sûr de la foi de David, mais il s'applique directement au Christ, le seul vrai bon berger. Et voici qu'aujourd'hui encore, ce psaume interpelle aussi notre foi d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Le Seigneur est mon berger, c'est lui qui sait, qui décide, qui prévoit. C'est lui qui me guide, qui m'accompagne. Alors on pourrait entendre ça comme une fanfaronnade. Je ne crains rien ni personne. Ma table est dressée face à des adversaires affamés. Mais on peut aussi entendre, sans Dieu pour compagnon, je vivrai dans la crainte. Avec lui, je ne crains plus rien. Sans lui, ma table serait déserte et mon eau trouble. Mais lui me guide vers l'eau fraîche, le repos. Il m'accompagne vers la plénitude et le bonheur. Sa présence est rassurante.
Alors, il est temps maintenant peut-être de découvrir cette version toute nouvelle de ce psaume 23 qui a été composé par Pascal Chemchak. Je vous laisse présenter les musiciens qui vous ont accompagnés et puis cette version pour soprane et quatuor à cordes.
Alors, au chant, nous avons Jeanne-Marie Anglès qui est soprane et au violon Anne Dumatra, au violoncelle Jean-Baptiste Desbosques et au violon alto moi-même.
Donc après cette nouvelle version de ce psaume 23 composé par Pascal Chemchak, eh bien encore une autre version, une autre interprétation, Corinne, que vous avez trouvée, que vous voulez partager avec nous.
Voilà, une dame de l'église de Hyères-les-Palmiers, puisque je vis à Toulon, et donc je vais souvent à Hyères. Eh bien cette dame Odile Cook-Honegger me proposait aussi de lire, de réciter, d'écouter sa version de ce psaume. C'est ce que je vous propose maintenant.
Et alors, c'est Jean-Baptiste qui nous fait la lecture de cette version.
L'Éternel est mon éducateur, mon ami et mon confident. Je n'ai besoin d'autre assurance, confort ou garantie. De rien, ni personne, je n'ai plus jamais peur, car il m'accompagne à chaque instant de ma vie. Il me guide dans mes choix et m'éclaire quand je doute. Et lorsque je frôle le vide de la déroute, il prend mon fardeau et me redresse. Il me soutient dans mes faiblesses. Pour demain, je n'ai rien à craindre, il assure. Sa présence et sa sagesse me rassurent. Oui, je sais que quoi qu'il advienne, je suis en paix. Car ses pas m'accompagneront toujours, désormais.
Toujours en compagnie du psaume 23 et de Corinne Acklin, nous continuons ce service protestant sur France Culture.
Moi, j'imagine bien Jésus et ses compagnons de route qui prient ce psaume, les bons jours, mais aussi les mauvais jours. Et bien, je me pose la question d'aujourd'hui. Comment cette prière, ce poème, ce chant peut avoir un impact dans notre vie quotidienne? En quoi il nous concerne? Dans le monde où nous vivons, ce psaume est un réconfort, un repos à lui tout seul. Mais il ne faudrait pas croire que la vie menée dans le désir de fidélité à Dieu soit toujours un pré d'herbe fraîche. Non. Le croyant rencontre des ravins et les ravages de la mort, et il a des ennemis, comme tout un chacun, peut-être même davantage. Mais la grâce de Dieu accompagne celui qui garde confiance. De plus, si le Seigneur nous conduit dans les sentiers de la justice, ce n'est pas à cause de nos efforts ou de notre fidélité. C'est simplement à cause de son nom, c'est-à-dire à cause de lui-même, de sa bonté, de sa bienveillance, et non pas à cause de ce que nous aurions pu faire pour le mériter. D'autres traductions disent « Il me conduit sur le chemin pour l'honneur de son nom ». C'est que Dieu a une parole d'honneur. Il tient parole, quoi qu'il puisse arriver. Lui-même, il est juste, équitable, on ne peut pas le corrompre ni le menacer. Il juge avec droiture, honnêteté, et il nous fait l'honneur de nous montrer le chemin. Un chemin juste, équitable, vrai, loin des mensonges, des flatteries, de la corruption et de la loi de la jungle, où c'est toujours le loup qui dévore l'agneau. Si le Seigneur est mon berger, alors je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Qui peut dire aujourd'hui, je ne suis pas en manque? Pas de manque d'argent, de manque d'amour, pas de manque d'idées, pas de manque d'amis. Ce serait stupéfiant, comme diraient ceux qui sont privés de leur drogue. Si nous n'avions plus de télé, est-ce que ça nous manquerait? Plus de téléphone ni de GPS, serions-nous en manque? Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 22, le Seigneur Jésus demande à ses disciples « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils répondent « De rien. » Dieu avait pourvu à tous leurs besoins, ou plutôt, ils étaient tellement emplis de bonheur qu'ils n'avaient plus besoin de rien. Ils étaient comblés, rassasiés, comme à l'auberge lorsque la table est prête et que les coupes débordent. Alors j'ai déjà souligné que Jésus s'est défini non seulement comme le bon berger des brebis, mais qu'il était aussi la porte de la bergerie, qu'il accueille ses disciples au retour de leur mission. Après les verts pâturages, il les accueille au retour dans sa bergerie. Eh bien, si vous êtes attentif, dans la seconde partie de ce psaume, on découvre déjà que le Seigneur est non seulement le berger, mais aussi l'aubergiste, celui qui dresse la table du souper et couvre le voyageur de parfums et d'attention. Le berger mène à l'auberge.
Et Pascal, cette image vous fait réagir.
Oui, tout à fait, ça m'inspire. Corinne, j'aime beaucoup cette approche que vous faites de la table dressée devant mes ennemis. Et j'aime à imaginer que cette table que l'on pressent bien garnie est aussi un lieu de convivialité, d'échange, de négociation de paix. De négociation de paix avec ceux qui me veulent du mal ou qui ne pensent pas la même chose que moi.
Une table partagée, comme dans les anciennes auberges, où on nous assied les uns à côté des autres sur les mêmes bancs. Et ces inconnus deviennent, pour un temps, des compagnons, des partageurs de pain, des commensaux, des partageurs de repas. Cela veut dire que dans cette auberge, on communie au même repas, à la même douceur de vivre. Ce repas, c'est une trêve, une pause où l'on vient désarmer, simplement assoiffé de calme, de sérénité. Et on y découvre l'abondance et la qualité d'un repas préparé avec soin.
Alors Corinne, dans ce psaume, il y a aussi une phrase qui est un petit peu difficile à prononcer, à comprendre aussi aujourd'hui. « Tu oins d'huile ma tête ». Alors des nouvelles versions ont préféré traduire en disant « Tu verses du parfum sur ma tête ». Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ?
Oui, c'est mieux. C'est vraiment mieux d'entendre « Verse du parfum sur ma tête ».« Tu oins d'huile ma tête », c'est trop bizarre. Mais le problème, c'est qu'avec cette version que vous proposez sur le parfum, on voit moins la référence à l'onction de David, à l'onction royale. En tout cas, l'huile qui est répandue ici, c'est une de ces huiles essentielles qui entrent dans la composition des eaux que nous appelons eaux de Cologne. Quand vous vous parfumez, vous ne vous versez ni huile ni essence. Et pourtant, des huiles essentielles, de lavande, de bergamote, de fleurs d'oranger. Et ça me fait penser à une autre auberge du temps de Jésus. Entre Jérusalem et Jéricho, un voyageur soigne un blessé avec de l'huile et du vin et le confie à l'aubergiste pour qu'il en prenne soin.
C'est le bon samaritain ?
Paraît-il, le bon samaritain. Mais il y a quelqu'un qu'on oublie à force de ne pas prononcer son nom, c'est l'aubergiste. Dans l'auberge du berger, il y a ces senteurs extraordinaires, ces liqueurs subtiles, à tel point qu'on a envie d'y rester toute sa vie et d'y revenir fréquemment. Parce qu'ici, il y a un verbe hébreu qui clôt cette prière et qui peut se traduire indifféremment par « habiter, vivre, rester, demeurer » ou bien « retourner, revenir ». Et donc, si un jour, nous n'arrivons plus à avancer, soyons certains que ce berger-là nous prendra sur ses épaules et nous accompagnera, quoi qu'il advienne. Et c'est entre ses mains paternelles que nous nous confions aujourd'hui les uns les autres, aujourd'hui et demain encore. Et c'est le moment de nous quitter et de vous souhaiter aux uns et aux autres un bon dimanche, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de votre chemin.
Ainsi s'achève donc ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Nous étions aujourd'hui avec le pasteur Corinne Acli de l'Église protestante unie de France qui était accompagnée d'un compositeur, Pascal Chemchak, et d'un musicien, Jean-Baptiste Desbosques. Merci à tous les trois. Si vous voulez recevoir le texte de cette émission, vous pouvez écrire au service radio de la Fédération protestante de France, au 47 rue de Clichy, 75 009, Paris. Pour des informations complémentaires, vous pouvez télécharger ou podcaster cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Restez à l'écoute, dans un instant, le journal et la suite des émissions avec Marc-Alain Wachnin et Talmudic. Bon dimanche.